Bonjour à tous. La fracture est ancienne, mais il semble qu'elle s'aggrave entre des écoles prestigieuses accueillant une large majorité d'élèves favorisés et des collèges dont la réputation de violence ou de faible niveau fait fuir les familles aisées et reculer la mixité sociale. Les stratégies de contournement de la carte scolaire sont nombreuses et la France est toujours championne des inégalités à l'école. Alors après l'assassinat de Samuel Paty, professeur dans un collège des Yvelines, nous allons tenter d'y voir plus clair à l'occasion de la journée spéciale consacré au combat pour l'éducation sur France Culture. Merci d'être avec nous et bienvenue à tous dans Entendez-vous l'écho. Avec nous pour parler de la mixité sociale à l'école, Marco Huberti, sociologue, professeur des universités à Sciences Po, auteur de cet ouvrage « La ségrégation urbaine » paru à la Découverte. Avec nous également Éric Charme, sociologue et urbaniste, chercheur à l'université de Lyon 1, auteur de « La revanche des villages », essai sur la France périurbaine publié l'an dernier au Seuil, et Clément Derbécourt, économiste, chercheur à France Stratégie. À 14h45, la bibliothèque de l'Écho vous fera découvrir le dernier livre de Cédric Durand, Techno-féodalisme, critique de l'économie numérique, paru à la Découverte.
Monsieur Chauchois, quand on parle de carte scolaire, on a tendance à penser qu'un écolier ou un étudiant va soudainement exhiber une carte d'identité scolaire classique avec sa photo. Or, ça n'est pas du tout cela.
Non, pas du tout. Quelques-uns pourraient même s'imaginer que c'est une carte qu'on accroche au tableau. Non, en réalité, il s'agit du quadrillage pédagogique de la France. C'est l'indication de tous les établissements donc qu'il sera nécessaire de construire, avec pour chaque établissement l'indication et l'énumération des sections qui doivent figurer dans cet établissement. Bon, en principe, pour les spécialités nombreuses, il y a une carte par académie subdivisée en carte par département.
Bonjour à tous les trois. Et merci beaucoup d'être avec nous depuis chez vous. On vient d'entendre l'inspecteur de l'Académie d'Amiens dans une interview d'octobre 1968. Ce que cette archive nous rappelle, Éric Charme, c'est qu'à l'origine, la carte scolaire n'a pas été conçue pour défendre la mixité sociale.
Oui, bonjour. Effectivement, quand on débat de la carte scolaire, on pense à la question de la mixité sociale, au sujet de la ségrégation, mais au départ, lorsque le dispositif est mis en place, en 1963, si je ne me trompe pas, l'enjeu, la question est avant tout, on peut dire, logistique, c'est-à-dire qu'il s'agit de faire en sorte que le nombre d'élèves accueillis par chaque établissement, un collège par exemple, bien ne soit pas trop important. Donc on regarde, on dit, ben voilà, telle école va envoyer ses élèves vers tel établissement. Et puis, il y a la question aussi de l'organisation du ramassage scolaire, qui est une question importante, particulièrement dans les territoires peu denses, périurbains et ruraux. C'est un sujet compliqué. Donc, il s'agit de prévoir et d'organiser tout ça. Donc ça, c'est un des rôles de la carte scolaire. C'est son rôle initial. Évidemment, après, se sont ajoutés d'autres enjeux dont on va parler.
Et justement, l'enjeu de mixité sociale, c'est intéressant de voir qu'il est venu plus tard. À quel moment, Marco Huberti, après l'instauration du collège unique qui accueille désormais toutes les classes sociales?
Oui, c'est ça. C'est à peu près à cette époque-là que se met en place une autre idée, disons, de ce qu'on va appeler d'ailleurs la sectorisation scolaire, plus que la carte scolaire, précisément pour faire cette différence entre l'outil dont a parlé Éric Charme et un autre principe qui serait de tendre vers une meilleure répartition des élèves en fonction de leur origine sociale. Donc effectivement, c'est finalement, au cours des années 80 et 90, que cette thématique de la mixité sociale va se rattacher à la question de la sectorisation scolaire et renvoyer implicitement à la question de la ségrégation socio-résidentielle.
Alors aujourd'hui, la ségrégation sociale est forte au collège et elle l'est plus encore au lycée. Clément Derbécourt, quel premier constat est-ce qu'on peut faire de cette ségrégation sociale à l'école?
Alors d'abord, on peut dire que cette ségrégation, c'est pas quelque chose de nouveau. la ségrégation, même si on dépasse le cadre de l'école, si on parle de ségrégation résidentielle, c'est quelque chose qui existe à peu près depuis que les villes existent, qui sont liées au fait que les villes sont hétérogènes socialement, notamment les grandes villes, notamment la plus grande ville, l'agglomération parisienne. Vous avez des inégalités importantes et vous avez des quartiers qui sont différenciés. Vous avez certains quartiers avec des résidents qui sont riches, d'autres qui sont pauvres, certains quartiers spécialisés dans l'accueil des populations immigrées. Et c'est pas un phénomène nouveau, c'est un phénomène qu'on peut mesurer depuis une date relativement récente en France, puisque on n'avait pas auparavant, avant les années 70, beaucoup de données localisées. Et donc on a commencé à s'intéresser à ces questions à partir des années 70-80. Et donc, si on regarde un petit peu l'évolution de la ségrégation résidentielle au cours du temps, contrairement à une idée qui est très répandue dans le débat public, ben, on se rend compte que finalement, au moins la ségrégation résidentielle, elle est relativement stable, à part quelques exceptions, et peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, notamment dans l'agglomération parisienne, qui est un cas très particulier. Mais si on regarde sur une vingtaine d'années ou une trentaine d'années, la ségrégation, c'est-à-dire l'inégale répartition des groupes sociaux dans l'espace, elle est relativement stable. Alors évidemment, ségrégation scolaire n'est pas ségrégation résidentielle. Et bien sûr, il peut y avoir des phénomènes de ségrégation scolaire qui viennent s'ajouter à la ségrégation résidentielle.
Mais c'est effectivement quand même ce qu'on constate globalement, effectivement, que cette ségrégation sociale à l'époque est la conséquence d'une ségrégation territoriale. Éric Charme, vous qui êtes urbaniste, on voit que c'est les grandes métropoles qui sont principalement concernées.
Oui, bah les grandes métropoles sont principalement concernées. Une des raisons pour lesquelles elles sont principalement concernées, c'est que c'est dans les grandes métropoles que les prix immobiliers sont les plus élevés, que la concurrence à laquelle se livrent les ménages pour accéder aux quartiers, aux localisations les plus désirables est la plus forte, et que donc évidemment les plus modestes, ceux qui ont le moins de moyens, sont souvent exclus d'un certain nombre de choix et se retrouve à devoir aller là où il reste de la place. Donc oui, c'est clair que ce phénomène est beaucoup plus fort dans les grandes métropoles, mais ça veut pas dire qu'il n'existe pas ailleurs et dans voilà. Mais c'est un trait aussi de la vie urbaine, c'est-à-dire que la vie urbaine, c'est à la fois l'expérience de la diversité. On se retrouve plongé dans les milieux dans lesquels il y a des gens extrêmement différents, et donc on peut faire tout un tas, disons rencontrer des gens très différents, mais c'est aussi le lieu où on peut rencontrer beaucoup de gens qui vous ressemblent, qui sont très proches de vous, qui ont par exemple des goûts ou des envies extrêmement pointues, et puis on peut développer ce goût et trouver des gens avec lesquels le partager beaucoup plus facilement dans une grande ville que dans un petit village. Et bien souvent il y a aussi des logiques affinitaires de rassemblement de personnes, donc voilà, c'est le côté très ambivalent de la vie urbaine.
Alors justement, si on prend le cas de Paris, Marco Auberti, est-ce que le manque de mixité sociale dans les écoles publiques n'est pas d'abord lié au poids de l'enseignement confessionnel dans la capitale et aussi à la surreprésentation des classes favorisées ?
Oui, effectivement, tous les travaux montrent que la présence du privé, donc qui n'est pas soumis à la sectorisation scolaire, bien que financée pour tous les établissements sous contrat par des fonds publics, explique pour une part très importante la ségrégation scolaire. Alors, ce qui est important aussi dans le cas francilien, c'est de constater que la localisation de l'offre scolaire privée, au niveau du collège par exemple, est elle-même très inégalement répartie. C'est-à-dire que ce que l'on constate, c'est que, y compris dans des banlieues plus mixtes et plus défavorisées, les établissements privés, je parle des collèges, sont très souvent ou plus souvent concentrés dans des communes elles-mêmes déjà favorisées. Et ce qui conduit à avoir une surreprésentation de l'offre scolaire la plus attractive dans quelques territoires très favorisés. Et donc, ce qui me semble important, c'est d'insister sur cette superposition, en quelque sorte, de l'attractivité scolaire des territoires déjà les plus favorisés et dans lesquels les collèges publics sont soit favorisés, soit mixtes, et en tout cas pas défavorisés.
Selon Julien Grenet, qui est chercheur à l'école d'économie de Paris, il y a presque un enfant sur deux qui n'intègre pas son collège de rattachement dans la capitale, Clément Derbecourt.
Oui, alors c'est une problématique qui est vraiment spécifique à l'agglomération parisienne, même si évidemment le privé peut être développé à certains endroits. Mais c'est vrai qu'à Paris, il y a une concentration importante de certains établissements très prestigieux et donc de l'évitement scolaire. Mais je voulais revenir sur la spécificité de l'agglomération parisienne, puisque c'est notre grande agglomération en France, hein, à peu près 10 millions d'habitants, elle est très étendue. Et on est souvent focalisé sur les questions de cartes scolaires, de mixité. On a tendance à penser que finalement on pourrait résoudre un certain nombre de problèmes en redessinant la carte scolaire. Et c'est vrai que pour Paris, c'est quelque chose de moins adapté, parce que compte tenu de la taille de l'agglomération parisienne, vous avez des communes, voire des départements entiers, en fait, qui sont peuplés de populations défavorisées, souvent issues de l'immigration. Et on voit bien que c'est très compliqué dans ces territoires-là de faire de la mixité. C'est difficile de redessiner des cartes scolaires qui vont permettre un brassage de population dans les collèges et dans les lycées.
Il y a eu quelques améliorations tout de même avec le logiciel AffelNet, qui est ce système aurait permis à la mixité sociale de progresser à Paris. Expliquez-nous, Clément d'Herbeco.
Mais le problème, c'est que AffelNet, il concerne avant tout l'Académie de Paris. En tout cas, les règles dont vous parlez, elles permettent de faire de la mixité à l'intérieur de l'Académie de Paris, qui est dans les limites de la commune de Paris, hein, vous voyez, Paris intramuros. Mais évidemment, reste le problème de faire de la mixité entre le 93, donc la Seine-Saint-Denis, l'Académie de Paris et puis le reste de l'Île-de-France. Et là, c'est des questions qui n'ont pas encore pu être réglées avec les logiciels et les modes d'affectation actuels dans les collèges et dans les lycées.
Mais comment expliquer que ce logiciel qui donc permet à des élèves de 3e d'être affectés à un lycée général ou technologique via cette procédure informatisée depuis 2008, comment expliquer que ça ait entraîné une proportion plus importante de boursiers dans les écoles parisienne? Clément d'Herbecourt.
Ah, alors je ne suis pas du tout spécialiste de ces questions, donc je vais peut-être laisser mes
alors,
camarades
Éric Chat,
répondre.
Marco Berti.
Oui, il y a peut-être un résultat intéressant, hein, qui montre que à niveau scolaire équivalent, les lycéens d'origine sociale favorisée ont des choix de lycée souvent beaucoup plus larges et beaucoup moins localisés par rapport à leur lieu de résidence. Et donc, je trouve que c'est déjà un élément intéressant et qui se reflète dans AffelNet, c'est-à-dire que, je le répète, à niveau scolaire équivalent, donc même pour des très bons élèves, ceux d'origine populaire ont davantage tendance à faire des choix de proximité. Et donc, on comprend bien que, y compris à l'échelle d'une ville comme Paris, cette propension à se délocaliser pour trouver un lycée plus attractif ailleurs est une pratique beaucoup plus diffuse auprès des milieux les plus favorisés.
Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a toute une série de stratégies d'évitement du collège ou du lycée de secteur. Quelles sont ces stratégies, Éric Charme, et comment ont-elles évolué?
Il y a de très nombreuses stratégies. Il y en a une qui est difficile à contrer, c'est le recours au privé. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, lorsque les parents ne sont pas satisfaits du collège de secteur et qu'ils ne parviennent pas à obtenir une dérogation pour envoyer leurs enfants dans un autre collège, bah, ils recourent au privé, sachant que, comme l'a rappelé Marco Auberti, dans la plupart la quasi-totalité des établissements privés, les enseignants sont payés par l'État et que donc pour beaucoup de ménages, pas tous, mais pour une large part des ménages, inscrire ses enfants dans le privé est une option qui est économiquement faisable. Donc ça, c'est quand même un aspect extrêmement important.
Mais il y a aussi la fausse adresse de domiciliation ou encore le choix d'options spécifiques qui permet de demander une dérogation à tel établissement.
D'ailleurs, pour parler d'autres territoires que Paris, mais tout en restant en Île-de-France, il y a quelques années, finalement pas mal d'années d'ailleurs, j'avais travaillé, enquêté sur une commune de Seine-Saint-Denis qui s'appelle Coubron, qui est une commune assez résidentielle, moins de 5000 habitants, plutôt pavillonnaire, et il se trouve qu'il y avait un conservatoire qui avait beaucoup de succès parce que les parents dès le primaire inscrivaient leurs enfants dans ce conservatoire en cours de musique dans l'espoir d'envoyer leurs enfants, enfin de permettre à leurs enfants d'accéder à une des classes chambres programme de Livry-Gargan et pour échapper à la sectorisation.
Alors Cham, il faut que vous nous redisiez.
Alors c'est des classes spécialisées, là en l'occurrence en musique, avec un enseignement renforcé en musique, sans que ce soit le conservatoire.
Donc on est. Ça signifie classe à horaire aménagé.
Voilà, exactement. Et donc l'idée, c'était d'échapper au collège de secteur qui était celui de Clichy-sous-Bois.
Et ce qu'on constate, Marco Auberti, c'est que de plus en plus, les classes moyennes aussi recourent au contournement.
Oui, alors le cas des classes moyennes est particulièrement intéressant, en particulier dans la région Île-de-France, puisque ce que l'on constate, c'est un travail qu'on va publier là prochainement avec Quentin Ramon, c'est qu'il y a un lien très très étroit entre les choix résidentiels et les choix scolaires. Et on remarque par exemple que dans certaines communes, une offre significative de logements intermédiaires dans le parc social permet à une frange des classes moyennes de ne pas accéder à la propriété, de faire le choix plutôt de rester dans le locatif, en l'occurrence social, pour avoir accès à un établissement public très attractif. Et on a repéré comme ça, à l'échelle de la première et la deuxième couronne, une bonne quinzaine de communes qui sont vraiment dans une configuration très particulière, de par cette part significative du logement intermédiaire pour les classes moyennes et le fait de concentrer beaucoup d'établissements publics très attractifs. Et du coup, on voit bien que cette question, y compris de l'accession à la propriété, et Eric Charme l'a montré pour le périurbain, peut repousser un peu plus loin des ménages qui souhaitent absolument accéder à la propriété, mais qui d'une certaine façon, si je peux m'exprimer ainsi, vont connaître une sorte de déclassement scolaire si elles ne recourent pas au privé. Mmh. Et donc vous voyez bien qu'il y a une articulation très fine entre les stratégies résidentielles ou les trajectoires résidentielles et les choix scolaires des ménages, en particulier pour les classes moyennes.
Alors comment expliquer ces stratégies de contournement qui sont loin d'être nouvelles, mais qui peut-être sont de plus en plus importantes? On verra plus tard l'impact des politiques publiques sur ces stratégies de contournement. Mais est-ce que on peut dire, Clément Derbécourt, que ces stratégies sont liées au fait que certains collèges sont beaucoup plus ghettoisés qu'il y a 20 ans? Qu'il y a eu une aggravation sur ce point?
Qu'il y a eu une aggravation, c'est très difficile à dire parce qu'on n'a pas de données qui nous permettent de suivre vraiment sur une très longue période la manière dont les différents publics sont concentrés ou pas dans les différents collèges ou dans les différents lycées. On a certaines photographies pour les années récentes. On sait qu'il y a des collèges ou des lycées qui sont très fortement, on va dire, ghettoisés, c'est-à-dire qui sont... où sont scolarisés une très grande majorité d'individus, en tout cas d'enfants, de familles défavorisées. Mais c'est difficile de dire que le problème s'aggrave, en fait. Nous, à France Stratégie, on a publié récemment une note sur l'évolution de la ségrégation résidentielle sur 25 ans. Et en tout cas, sur le plan résidentiel, on n'observe pas d'explosion de la ségrégation. Alors évidemment, certains quartiers vont diverger par rapport à la trajectoire de leur agglomération. Ils vont être constitués de plus en plus d'individus pauvres, par exemple, ou d'individus très riches. Mais dans le même temps, on a aussi des quartiers qui vont converger. Donc on a une sorte d'évolution urbaine sur 25 ans qui, bien sûr, crée des dynamiques dans certains quartiers, mais on peut pas dire qu'on ait une explosion ou en tout cas une augmentation significative de la ségrégation. Et encore une fois, au niveau des collèges et des lycées, on manque de données. Et donc, évidemment, c'est dans l'air du temps de dire qu'il y a des fractures urbaines, des fractures géographiques en France. Et je comprends que vous insistiez sur ce point parce que ça fait partie des débats qui sont vraiment les plus chauds en ce moment. Mais je veux simplement dire qu'il faut faire attention dans le diagnostic. Et on a aussi un certain nombre d'évolutions de la ségrégation résidentielle qui sont beaucoup plus favorables. Par exemple, si vous regardez l'évolution de la répartition des HLM au sein des agglomérations, vous voyez que depuis 25 ans, le HLM se concentre de moins en moins dans les quartiers qui ont été construits dans les années 60 ou dans les années 70. Et donc on a un rééquilibrage de ce point de vue-là. Vous voyez, il y a des politiques publiques qui vont favoriser la réduction de la ségrégation. Et bien sûr, sur le plan scolaire, c'est compliqué parce que le collège ou le lycée, il arrive un petit peu en bout de chaîne. Et bien sûr, c'est peut-être pas des politiques purement scolaires qui vont résoudre le problème.
On comprend bien, effectivement, Clément Derbecourt, mais on peut se demander si ce sentiment, en tout cas, cette volonté de ne pas aller dans le collège, ne pas mettre son enfant dans le collège ou le lycée de secteur, est liée à une peur qui s'appuie sur une certaine réalité. Il y a en tout cas cette idée, Marco Auberti, que la mixité sociale n'est pas un avantage pour tous les élèves. Il y a un certain nombre de parents qui estiment que la mixité sociale n'est pas une bonne chose pour leur enfant.
Oui, absolument. Alors, je pense qu'il y a deux choses, si vous voulez. Il y a d'une part la perception que les ménages se font de la ségrégation dans leur quartier et l'image qu'ils se font de la ségrégation dans le collège du secteur. Et souvent, même lorsqu'on a une mesure objective de la ségrégation du collège, il peut y avoir une perception beaucoup plus forte de cette ségrégation. Et ce qui est important et ce qui est très subtil en fait à atteindre, c'est cet équilibre où les parents ont le sentiment que leur collège reflète l'idée qu'ils se font de la mixité dans leur quartier. Et c'est quelque chose de très difficile à aborder parce que il y a des idées reçues, il suffit d'un événement lié à une agression, à des violences pour que la réputation d'un collège change rapidement d'une année sur l'autre. Mais c'est bien un ressenti de ce qu'est la ségrégation dans l'établissement qui peut pousser des ménages à ne pas faire le choix du collège scolaire.
Parce qu'il y a aussi des détails très 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 concrets, très précis qui peuvent expliquer cela aussi, Marco Auberti, le fait que il y ait moins d'enseignants non titulaires plus d'enseignants non titulaires dans ces quartiers, dans ces collèges difficiles, et plus d'enseignants plus jeunes. Ça, ce sont des faits objectifs.
Absolument, vous avez tout à fait raison, et je pense qu'il faut rappeler deux choses, si vous voulez. La première, c'est qu'effectivement, donc c'est le dernier papier qu'on a publié dans une revue avec un autre collègue de l'OSC. On montre bien que pour les enfants d'origine populaire, être scolarisé dans un collège mixte ou favorisé, ça augmente leur chance d'obtenir une mention bien ou très bien au brevet des collèges, et de façon beaucoup plus significative et beaucoup plus nette que pour les élèves d'origine très favorisée. Donc on voit bien que, sans parler de supposées vertus de la mixité, je pense que c'est pas du tout ça la question, simplement du point de vue des inégalités scolaires au sens strict, il y a un avantage pour certains élèves d'origine très populaire à être scolarisés dans des établissements beaucoup plus mixtes, voire un peu plus favorisés. Et le deuxième point sur lequel je veux insister, et qui est assez troublant dans le cas français, c'est que si on regarde à l'échelle de plusieurs décennies, on voit qu'il y a eu soit un accent mis sur une meilleure répartition de l'offre scolaire, en pensant qu'en mettant des options attractives dans des collèges très défavorisés, on allait faire revenir des classes moyennes, ce qui n'a pas du tout marché, et à d'autres moments, plutôt chercher, indépendamment de la requalification de l'offre scolaire, à agir sur le profil social de l'établissement. Or, ce que montrent toutes les études, et pas simplement en France, c'est qu'il faut agir simultanément sur les deux leviers, c'est-à-dire rassurer les parents sur le fait que l'offre scolaire du lycée A est la même que celle du lycée B ou C, et que le profil social du premier collège ne diffère pas des deux autres. Tant qu'on ne sera pas en mesure de mieux rééquilibrer ces deux dimensions, il me semble qu'il sera très très difficile d'atteindre un objectif disons mieux répartis de mixité sociale.
Alors il y a tout de même plus de moyens qui ont été alloués aux collèges REP et REP plus pour lutter contre ces inégalités, et donc ces réseaux d'éducation prioritaire se sont vus allouer ces moyens supplémentaires. Avec quels effets, Clément Derbecourt?
Alors sur la dernière réforme en date qui concerne pas les collèges et les lycées mais qui concerne les écoles primaires, il y a la politique de réduction de la taille des classes qui a été évaluée en 2019 par le ministère. C'est l'ADEP qui a fait un travail de recherche en associant un certain nombre d'économistes notamment. Et on voit qu'on a un effet quand on met plus de moyens, c'est-à-dire dans ce cas-ci, quand on divise la taille des classes par deux, on voit qu'on a un effet sur la réussite des élèves en termes de compétences en mathématiques, en termes de compétences en français.
Et pourtant, dans une étude pour France Stratégie, vous notez que certains collèges hors éducation prioritaire sont mieux dotés que des établissements en REP+. Comment est-ce qu'on explique ça ?
Voilà, Là, l'intérêt de la politique justement de dédoublement des classes, c'est au moins qu'on a une politique qui est un petit peu qui est top down, hein, qui s'impose un peu sur le terrain, où chaque établissement est censé mettre en œuvre les mêmes moyens, puisque voilà, on doit diviser par deux la taille des classes, on a un nombre d'élèves par classe, donc c'est un objectif qui est mesurable et qui a été très bien respecté dans la quasi-totalité des écoles où les classes ont été dédoublées. Mais au collège et au lycée, on n'a pas cette politique de dédoublement des classes. D'ailleurs, ce serait quelque chose qui n'aurait pas de sens, puisqu'au collège, au lycée, on a déjà un certain nombre de classes qui sont dédoublées pour des options. L'organisation de la classe est complètement différente. Donc on a choisi plutôt de mettre plus de moyens, en tout cas, c'est l'objectif affiché de la politique d'éducation prioritaire, de mettre plus de moyens humains, donc plus d'enseignants, éventuellement avec des décharges, avec des possibilités de se former, d'avoir des réunions au sein de l'équipe pédagogique. Mais ce qu'on constate, c'est qu'au collège, et alors le lycée, on n'a pas regardé, mais en tout cas au collège, il y a une très grande hétérogénéité dans la dotation des collèges, qu'ils soient REP, REP+, ou hors éducation prioritaire. Ce qui fait que vous avez des collèges hors éducation prioritaire, donc qui n'ont pas le label, qui dans certains cas ont plus de moyens par élève, donc en l'occurrence, il y a plus d'élèves par élève ou moins d'élèves par enseignant, et dans certains cas, hors éducation prioritaire, vous avez plus de moyens qu'en REP+, et en REP.
Et alors, comment on l'explique ça justement, Clément Damecco?
C'est lié à un certain nombre de problèmes de pilotage, notamment le fait que on a des difficultés à prédire le nombre d'élèves qui va fréquenter un établissement. D'année en année, on sait à peu près combien d'élèves vont aller dans l'établissement, mais vous avez des variations démographiques importantes qui sont liées au fait que le quartier va évoluer, au fait que des familles s'installent, d'autres partent, etc. Et finalement, c'est assez difficile pour l'éducation nationale de prédire le nombre d'élèves qu'il va y avoir dans un collège. Donc ça, c'est une première explication. Et puis après, il y a des difficultés d'adaptation. On a du mal à faire venir des enseignants dans certains établissements parce que ça prend du temps, parce que les établissements ne sont pas attractifs. Et c'est un ensemble de choses qui va expliquer cette hétérogénéité.
On voit du côté de la Seine-Saint-Denis, il y a eu cette prime qui a été votée, prime de 10 000 euros qui est accessible depuis le mois dernier pour les fonctionnaires présents dans le département depuis plus de 5 ans, avec l'idée que de fidéliser aussi les enseignants, puisque la Seine-Saint-Denis, c'est le département qui compte la part la plus faible d'enseignants présents dans l'établissement depuis plus de 5 ans. Éric Charme, sur ces différentes dotations, ces différentes mesures qui cherchent à réparer ces inégalités à l'école.
C'est vrai que ça a été dit, la ségrégation ou le fait que les populations sont réparties de manière différente dans l'espace, c'est un fait établi, c'est une tendance extrêmement lourde contre laquelle il est quand même extrêmement difficile de lutter. La mixité à l'école a tout un ensemble de vertus et Marco Oberti l'a rappelé, peut aider les enfants de milieux défavorisés à mieux réussir, mais c'est quand même une politique extrêmement difficile à mettre en œuvre, surtout dans un contexte où de toute façon les parents qui ne veulent pas jouer le jeu peuvent se retourner vers le privé. Donc pour lutter contre les inégalités qui sont liées à la ségrégation, il est clair qu'un levier politique qui jusqu'ici quand même a été assez peu actionné, d'ailleurs ça vient d'être dit, il peut y avoir des collèges qui sont, des établissements qui sont situés hors zone d'éducation prioritaire, qui sont mieux dotés que des établissements qui sont censés recevoir plus d'argent.
Il faudrait changer la carte de l'éducation prioritaire ? Éric Charme.
Alors moi je suis pas spécialiste de l'éducation prioritaire. Ce que je peux dire en tout cas, c'est que une manière forte de réparer des inégalités qui sont réelles, des inégalités de chance qui sont injustes, c'est d'investir plus dans les collèges et les établissements scolaires les plus défavorisés, de leur donner plus de moyens. Donc un exemple, c'est réduire le nombre d'élèves par classe, sous réserve que l'accompagnement pédagogique aille avec. Mais c'est certainement
un dispositif qui devrait être, en tout cas, il semblerait, d'après les études auxquelles moi j'ai pu avoir accès, je n'ai pas réalisé moi-même, mais que le nombre d'élèves par classe est quand même un facteur extrêmement important. Et quand on est enseignant, on sait bien que ça compte beaucoup quand même, le nombre d'élèves qu'on a devant soi. C'est important pour accompagner mieux les élèves en difficulté.
C'est ce que dit l'économiste Thomas Piketty, effectivement. Ce qui joue le plus sur les résultats scolaires, c'est la taille des classes. Mais alors effectivement, ce n'est pas forcément la politique qui a été mise en place en 2007. Marco Huberti, 2007, c'est un moment important puisque c'est un tournant. Il y a eu cette volonté de justement d'assouplir cette carte scolaire. Et ce que l'on voit bien, c'est que la raison qui était mobilisée pour cela, c'était justement de lutter contre la ségrégation sociale. Alors on a du mal à comprendre comment une même carte scolaire peut aider à la mixité sociale ou au contraire renforcer la ségrégation.
Oui, effectivement, ça a déjà été dit, mais dans certains territoires, il est très difficile d'utiliser la sectorisation scolaire pour produire plus de mixité. Vous prenez certaines parties, la partie centrale ou nord-est de la Seine-Saint-Denis, vous avez des territoires contigus qui sont très homogènes. Vous pouvez toujours essayer de redessiner la carte scolaire dans tous les sens. Vous parviendrez difficilement à atteindre plus de mixité sociale. Alors, en revanche, c'est moins vrai dans d'autres territoires, hein, du Val-de-Marne, des Hauts-de-Seine, en partie des Yvelines, où on pourrait, mais ça impliquerait aussi de changer d'échelle, hein, de sortir de l'échelle municipale pour élargir le territoire et redessiner une carte scolaire. Simplement, ce que montrait aussi l'expérience, tentative d'assouplissement de la carte scolaire, c'est effectivement que c'est ce que nous avons fait en comparant les demandes de dérogation dans deux départements très contrastés, les Hauts-de-Seine et la Seine-Saint-Denis. On constatait que les demandes étaient beaucoup plus importantes dans les Hauts-de-Seine et en particulier auprès des ménages les plus favorisés et dans les communes les plus favorisées. C'est-à-dire que, alors que le projet était de donner plus d'opportunités aux enfants des quartiers les plus homogènes pour être scolarisés dans des collèges extérieurs à leur quartier, ce sont ces ménages qui ont le moins utilisé cet assouplissement en 2007-2008. Donc on voit bien encore une fois que cette question des stratégies liées au rapport à l'école sont beaucoup plus présentes et davantage mises en œuvre dans certains milieux que dans d'autres. Et je voudrais, si vous me le permettez, insister sur un point pour rebondir à une remarque précédente, c'est qu'effectivement, je pense que nous sommes tous d'accord pour dire qu'il faut que l'écart soit significatif entre l'éducation prioritaire et le reste des établissements. Il faut une vraie différence de moyens, d'encadrement, d'aide au projet, etc. Or, cette différence, elle est quand même, si on prend en compte tous les facteurs, relativement modeste. Et le deuxième point important qui rend difficile l'appui sur une politique d'éducation prioritaire, c'est cet effet pervers d'un étiquetage, si vous voulez, d'une sorte de stigmatisation à partir du moment où des établissements vont être repérés, étiquetés comme relevant de l'éducation prioritaire. Et on sait bien que dans certains cas, alors que ça passe par une amélioration des conditions d'enseignement, ça fonctionne comme un message très négatif auprès de certains milieux sociaux qui voient donc une officialisation du caractère défavorisé de l'établissement et peuvent se tourner vers le privé.
Alors effectivement, c'est important ce que vous soulignez ici, Marco Huberti, et à propos de cet assouplissement de la carte scolaire en 2007, effectivement, ce que l'on a constaté, Clément Derbécourt, c'est que les inégalités scolaires ont été accentuées, les établissements de zones défavorisées se sont vidés, et comme le disait Marco Huberti, les dérogations finalement ont été attribuées majoritairement aux familles des catégories sociales les plus élevées.
Je n'aurais pas d'éléments sur cette question, mais par contre, je voudrais réagir à ce qui vient d'être dit parce que ça me paraît essentiel. L'idée que le label éducation prioritaire peut parfois apparaître comme un signal négatif pour un certain nombre de familles, et c'est quelque chose qui est très vrai. Et d'ailleurs, un certain nombre d'élus locaux préfèrent ne pas voir les collèges qui sont situés sur leur commune labellisés en éducation prioritaire parce qu'ils craignent justement cet effet négatif de label. Alors, peut-être une manière de résoudre ce problème-là, c'est que l'éducation prioritaire et l'ensemble des communautés éducatives doivent peut-être mieux mettre en évidence les points positifs du label, c'est-à-dire tout ce que le label apporte en termes de moyens, en termes de possibilités pédagogiques. Et c'est à cette condition-là, c'est-à-dire à la condition qu'on montre aux parents qu'effectivement, l'éducation prioritaire amène des moyens supplémentaires, fait la différence que peut-être la crainte d'un effet négatif du label pourra s'estomper, je pense.
Et un effet négatif, notamment sur les prix de l'immobilier, c'est ce que les élus locaux redoutent, Clément Derbécourt. Avoir un collège en REP+, ça peut avoir un impact sur les prix de l'immobilier ?
Sur les prix de l'immobilier, sur la composition de la commune, sur l'attractivité, sur les recettes fiscales à moyen terme, bien sûr, toutes ces dimensions-là, puisque la manière dont va être perçu un collège et plus généralement un quartier va avoir un effet sur la dynamique du quartier dans le temps, bien sûr.
Mais on a le sentiment que ces dernières années, il y a eu des va-et-vient entre un durcissement de cette carte scolaire ou au contraire un assouplissement après l'assouplissement qui a été mené par Nicolas Sarkozy en 2007. François Hollande a estimé que cette politique menée par son prédécesseur avait été un échec. Mais pour autant, il n'a pas introduit de modifications substantielles, Éric Charme ?
Alors, j'avoue que...
Marco Berti.
Oui, non, vous avez tout à fait raison. On pourrait même dire que, après beaucoup d'effervescence autour de cette question de la sectorisation scolaire, de la mixité à l'école, les choses sont un peu retombées. Alors, c'est assez étrange. Enfin, c'est en train de revenir avec des préoccupations liées aux événements dramatiques de ces dernières semaines. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui tient aussi sans doute au fait que poser cette question, ça veut dire logiquement poser la question de l'école privée, c'est-à-dire de la possibilité d'impliquer davantage les établissements privés dans une politique de sectorisation en mettant en avant l'argument qu'une large partie de leurs fonds...
Ah, je crois que nous avons perdu Marco Oberti, mais il m'a fourni...
Je pense qu'il y a aussi une piste...
On vous écoute, on vous a perdu juste une seconde, on vous écoute. Alors non, on a reperdu Marco Oberti, mais il me fournissait une transition parfaite pour parler justement de la place du privé. Et je voudrais que l'on écoute un extrait de la série Baron Noir, dans lequel le député du Val-de-Marne, Cyril Balsan, décide de lutter contre le communautarisme et de promouvoir la mixité sociale dans sa circonscription. L'objectif, c'est notamment de contrecarrer la progression de Lionel Chalon, le candidat d'extrême droite dans la série. Et il s'en explique, Cyril Balsan, auprès de Philippe Rickert, personnage principal de la série, incarné par Cadmerade.
Dans le cas de mon collège, c'est très simple. Comme il s'agit d'une fermeture, les élèves devront être répartis dans de nouveaux établissements. Ben moi, ce que je propose, c'est de généraliser le principe.
On va pas fermer toutes les écoles. Tu deviens un peu inquiétant, la Cyril.
On prend la carte scolaire, on lui fait un dernier petit bisou et on la fout à la poubelle. On en fait une nouvelle, avec un schéma d'organisation basé sur un principe prioritaire, la mixité.
Sociale.
Sociale, territoriale. Là où aujourd'hui une adresse correspond à un établissement, elle correspondra à quatre établissements. D'accord ? On aura plus gros secteur et donc un nombre suffisant d'élèves socialement différents pour organiser une vraie mixité.
Une sorte de quota ?
Non. Plutôt une nouvelle clé de répartition, tu vois ? Pas plus de X% d'élèves défavorisés dans une même école. De la maternelle à la terminale, dans tous les établissements, sur tout le territoire. Et c'est là que je nique Chalon. La question d'intégration, non seulement je l'aborde de face, mais en plus je la résous.
Tout le monde va se barrer.
Pourquoi ?
L'évitement. Il y aura une fuite vers le privé considérable avec tout X%. T'affaiblis le public. Les gens veulent bien de la mixité à condition que ce soit les autres qui s'en chargent.
Je suis d'accord. La mesure n'a aucun intérêt sans le privé. C'est pour ça que j'inclus le privé sous contrat. Et là, mon chiffre tombe à 25. C'est pas raisonnable, non ? Évidemment, toutes les écoles privées qui ne respectent pas les 25% ne bénéficient plus des subventions de l'État.
T'es au courant qu'en 84, il y a eu un gigantesque mouvement pour l'école libre ?
Il y a plus de 35 ans, ouais. Et alors ?
Tu veux rallumer la guerre scolaire ?
Bah, moi, je trouve ça beaucoup plus raisonnable que la guerre civile de Chalon.
Clément Derbécourt, un quota de 25% d'élèves d'origine défavorisée dans chaque établissement, qu'il soit public ou privé, c'est une piste intéressante ?
Alors, j'aime beaucoup Baron Noir, mais en termes de préconisations pour les écoles, je dirais surtout qu'il faut surtout faire confiance aux acteurs locaux et donc essayer d'éviter d'avoir des règles qui sont imposées d'en haut, uniformes. Au contraire, je pense que dans un certain nombre d'établissements qui ont des difficultés sociales, il y a plusieurs pistes qui sont envisageables.
Il vaudrait mieux passer par une prime à la mixité dans les écoles privées qui jouent le jeu. C'est ce qui va être mis en place dans la capitale à partir de la rentrée prochaine. Un fonctionnement de bonus-malus en fonction de la mixité sociale.
Encore une fois, si on est à l'échelle des agglomérations, vous avez des endroits de toute façon où ça va être très compliqué de faire de la mixité sociale, puisque vous avez des communes, des communautés de communes qui sont toutes défavorisées. Donc ça sera de toute façon toujours difficile dans certains endroits. Donc dans les territoires les plus en difficulté, au cas par cas, il faut regarder quelles sont les possibilités. Est-ce qu'il faut dans certains cas fermer les établissements? Dans certains cas, ça peut être la dernière solution. Est-ce que c'est parfois la carte scolaire qui va faire la différence, ou est-ce que c'est une politique de dotation spécifique de cet établissement qui va faire que petit à petit on va faire revenir certaines familles, à condition bien sûr que ça sache et que les gens aient confiance dans le fait que plus de moyens, ça fait plus de réussite, plus de perspectives.
Marco Auberti, on a retrouvé Marco Auberti, la connexion est rétablie. Est-ce que, selon vous, Marco Auberti, il faudrait soumettre l'enseignement privé à la carte scolaire ou passer davantage par un fonctionnement de prime à la mixité?
Non, je pense qu'il serait possible d'engager des négociations, des discussions, des comités qui puissent rassembler autour d'une même table des représentants de l'enseignement privé sous contrat et des représentants de l'éducation nationale. Et on peut imaginer dans certains cas, comme ça a été tenté, alors j'ai oublié, je crois que c'est dans le Val d'Oise, il y a eu une tentative de ce type-là, de rassembler autour d'une même table des acteurs de l'éducation privée et publique, et de voir comment, à l'échelle d'un bassin, par exemple, il serait possible d'imaginer une affectation, des principes d'affectation des élèves qui puissent tendre vers plus d'équilibres sociaux entre les établissements. Alors, en même temps, vous savez, je ne suis pas naïf. J'ai en mémoire ce qui s'est passé quelques années après l'élection de François Mitterrand, lorsqu'il y a eu des tentatives de reconfigurer le rôle de l'école privée, qui a mis des millions de personnes dans la rue.
Comme c'était évoqué dans l'extrait du Baron Noir qu'on vient d'entendre en 84.
Exactement, avec ce slogan qui est quand même toujours surprenant pour nos collègues étrangers, de l'école libre. Donc, c'est-à-dire que l'école privée serait l'école libre. Et c'est comme ça que le clivage continue d'exister en France, avec quand même, je trouve, des effets qui sont tout à fait dommageables du point de vue de la réussite scolaire des élèves.
Éric Charme, sur les négociations qui devraient peut-être, selon vous, s'ouvrir avec le privé afin de promouvoir davantage la mixité sociale?
Moi, je vais aller tout à fait dans le sens de ce qui vient d'être dit. Ce qui est certain, c'est que c'est pour la discussion qu'on est en train d'avoir sur la question de la ségrégation et de ses effets dans les établissements scolaires, la prise en compte du privé est essentielle, et qu'on résoudra pas ces problèmes en agissant seulement sur les établissements publics, surtout dans un contexte d'attention de plus en plus forte et accrue des parents à la qualité des établissements scolaires. Et j'aimerais insister sur un point d'ailleurs, c'est que les parents ne portent pas seulement attention aux performances éducatives des établissements, aux résultats, au taux de réussite au brevet, etc. Il faut quand même avoir bien en tête que ce qui compte beaucoup pour beaucoup de parents, et ce qui les conduit à avoir des positions souvent très réservées par rapport à la mixité sociale, c'est la socialisation de leurs enfants. Et la socialisation, c'est qui ils fréquentent. Et la question de la fréquentation, c'est quand même un sujet dont on n'a encore pas assez parlé peut-être là, est une question extrêmement importante. Donc c'est aussi sur ces sujets-là qu'il faut arriver à travailler.
Sur cette question effectivement de la socialisation qui est importante et qu'on peut avoir tendance à oublier avec simplement la question de la réussite au bac et au brevet, Marco Auberti.
Bien, c'est ce qu'on appelle aussi les effets de pair à l'échelle de la classe ou de l'établissement, alors qu'ils sont pas toujours aussi forts qu'on l'imagine, mais il est clair que la question, la préoccupation des parents renvoie effectivement aux aspects relationnels, c'est-à-dire dans quel environnement les enfants vont évoluer. Et on sait bien qu'il y a aujourd'hui des crispations, d'ailleurs, et c'est une autre dimension dont on a très peu parlé durant cette émission, qui renvoie aussi davantage à la perception de la présence d'enfants issus de l'immigration. Donc on voit bien que c'est bien une combinaison de ces deux aspects, c'est-à-dire un public très défavorisé, mais dont le caractère visible passe par le fait d'être ou non d'origine migratoire. Et on sait bien qu'il y a des... Oui, des tensions, des préoccupations qui renvoient à cette image que peut transmettre un établissement à travers le profil des élèves qui y sont scolarisés.
Cette ségrégation sociale se double effectivement d'une ségrégation ethnique, Clément d'Herbecourt, et ça contribue à alimenter peut-être un certain nombre de peurs et du coup de cette séparation que l'on constate entre ces différentes écoles aujourd'hui en France.
Alors c'est un phénomène qui est d'autant plus important en Île-de-France. Encore une fois, l'Île-de-France est assez particulière parce que c'est l'endroit où, depuis une quinzaine d'années, vous avez beaucoup d'immigration africaine, ce qui n'est pas le cas dans d'autres territoires, et donc avec certains enfants qui sont donc qui se retrouvent dans les mêmes établissements. Hein, c'est toujours la même dynamique. Et sur cette question-là, on manque de données, on manque de recul aussi, mais on manque de transparence. On aimerait avoir des choses plus documentées, plus objectivées. Aujourd'hui, c'est vrai que cette question-là, elle est peu étudiée. En tout cas, on a peu de données établissement par établissement, et c'est quelque chose de problématique. Je pense que tout ce qui ira vers plus de transparence, alors pas forcément via des données qui soient en libre circulation, en open data, que tout le monde puisse consulter, mais peut-être dans des conseils départementaux de l'éducation ou dans certaines instances, qu'on soit capable de mobiliser ces données-là pour, dans certaines situations, pouvoir éviter certaines dérives ou certaines évolutions qui seraient dommageables.
Pour conclure, Marco Auberti, d'un mot, il faudrait agir, selon vous, pour lutter contre les inégalités scolaires, à la fois sur les établissements défavorisés, en leur allouant plus de moyens, et aussi en entrant en négociation avec le privé afin de permettre une meilleure mixité sociale aussi dans ces établissements.
Absolument, et je rajouterais aussi la question des politiques du logement et d'avoir une vision beaucoup plus équilibrée entre les différents statuts du logement social, de manière à penser aussi une meilleure répartition dans sa diversité du logement social entre les territoires. Peut-être que c'est une piste aussi à relier aux deux précédentes.
Grand merci à tous les trois, Clément d'Herbecourt, chercheur à France Stratégie, Éric Charme, auteur de La Revanche des Villages, essai sur la France périurbaine paru au Seuil, et Marco Auberti, auteur de La Ségrégation urbaine paru à La Découverte. Un grand merci d'avoir partagé avec nous vos analyses sur les inégalités scolaires et la ségrégation sociale. Tout de suite, c'est l'heure pour nous de retrouver la bibliothèque de l'écho.
France Culture, entendez-vous l'écho ? Stéphane de Roquigny.
Les promesses de l'Internet libre semblent s'effacer sous l'influence des GAFA. Selon l'économiste Cédric Durand, le capitalisme numérique connaît un phénomène de concentration et devient un techno-féodalisme. C'est le titre de son dernier ouvrage, publié à La Découverte dans la collection Zone. Techno-féodalisme critique de l'économie numérique. Ses explications au micro de Marguerite Caton.
Ce qui est effectivement fascinant, c'est que au début des années 90, on pense que le numérique va faire diminuer les coûts, et en particulier les coûts de transaction, et va permettre à toute une série d'acteurs de participer au marché. On n'aura plus besoin d'être un acteur dominant pour participer au marché. Et si vous voulez, d'une certaine façon, ça s'est réalisé. Mais ça, c'est qu'une toute petite partie de l'histoire. Ce qui avait été mal perçu à l'époque, c'est que la diminution des coûts de transaction allait au contraire favoriser des mécanismes de concentration extrêmement puissants. Et pourquoi ? Parce que les économies d'échelle associées aux activités numériques sont extrêmement importantes. Alors ça, on le savait, hein, on associait ça à la gratuité de l'information, son caractère immédiatement disponible. Ce qu'on n'avait pas compris, c'est qu'en fait, l'information est rare, les données originales sont rares, et le processus qui consiste à capturer ces données, capturer ces informations, à les extraire si vous voulez, est un processus qui donne à ceux qui sont capables de le faire un avantage cumulatif. plus vous avez des données, plus vous avez des services intéressants, plus vous avez des services intéressants, plus vous avez des données. Et là, il y a un mécanisme de monopolisation extrêmement puissant, une logique de monopole naturel qui est à l'œuvre dans les réseaux sociaux, dans Google, dans toute une série de services numériques.
Le problème qui en découle, c'est le pouvoir social et le pouvoir comportemental des big data. Les entreprises du big data ne sont pas seulement des entreprises de collecte et de valorisation des données personnelles, elles sont en mesure aussi de prévoir et de modifier le comportement humain. Alors là, c'est un enjeu vraiment politique.
Voilà, donc ça, c'est une autrice qui s'appelle Shoshana Zuboff, qui publie d'ailleurs cet automne en français son livre « Capitalisme de la surveillance », qui a développé cette idée-là. Et l'idée, effectivement, qu'il y a un genre de capitalisme associé à la prédiction. Les grandes entreprises du numérique, qu'est-ce qu'elles font? Elles vendent leur capacité à prédire nos comportements. Et de ce fait-là, elles sont de plus en plus incitées non seulement à le prédire, mais à le guider, notre comportement. Et donc là, on sent bien qu'il y a un déplacement épistémologique entre la capacité d'envisager ce qui va se passer et la capacité de façonner ce qui va se passer, qui est un problème politique, de domination politique, proprement politique, extrêmement préoccupant. Et effectivement, on a raison de s'inquiéter, à titre strictement politique, du type de dispositifs de domination qui sont associés à l'économie du numérique.
Un exemple très simple que vous pouvez peut-être nous expliquer, c'est le jeu Pokémon Go.
Oui, voilà, le jeu Pokémon Go, par exemple. De quelle façon les concepteurs de Pokémon Go se rémunèrent-ils? Eh bien, ils se rémunèrent finalement en vendant notre passage dans certains lieux. Pour pouvoir être des cibles de Pokémon, on paye à la plateforme et dès lors, les gens vont être incités à venir physiquement sur ce lieu, par exemple un marchand de glace, un McDonald's, un magasin de chaussures, que sais-je. Et donc, il y a une façon d'inciter les individus à se diriger vers telle ou telle place, ce qui est une manière de faire plus que de la publicité, de déplacer des clients potentiels à proximité des cibles.
Vous vous attardez assez longtemps sur le système du crédit social chinois. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment il s'est mis en place et quels sont ses objectifs?
Alors, le système de crédit social chinois a été souvent décrié, et à juste titre, comme un mécanisme de sanction et de surveillance des citoyens dans la presse occidentale. Mais c'est pas seulement ça. C'est d'abord et avant tout un moyen de corriger le marché. Un moyen de corriger les effets néfastes du marché tel qu'il s'est développé de manière très sauvage en Chine à partir des années 80 et surtout des années 1990.
Corriger la malhonnêteté du vendeur.
Corriger la malhonnêteté du vendeur, être capable d'inscrire des effets de réputation qui ne sont pas présents dans les prix et qui peuvent être cristallisés dans ce système de notes, de notation, qui permet donc aux différents participants au marché de réencastrer leurs relations dans un contexte de validation par le social plus généralement. Alors de cette façon-là, il y a d'abord et avant tout des indications de marché qui sont données qui permettent aux uns et aux autres d'agir, et puis il y a également, de la part du gouvernement, un outil pour diriger les comportements, pour les guider à travers des mécanismes soit d'incitation, soit de sanctions qui y sont associés. Mais le fond de l'affaire, et pourquoi ce système apparemment est relativement bien accepté par la population chinoise, c'est qu'il y avait une vraie défiance liée au manque de fiabilité des différents parties prenantes dans le cadre du marché, et que là, il y a une forme de réencastrement dans le social du marché grâce à ce mécanisme-là.
Vous proposez, Cédric Durand, de revenir au concept de féodalisme pour comprendre le nouveau paradigme économique des big data. Alors, que nous apprend ce détour un peu incongru à première vue par le Moyen-Âge?
Alors, il y a... D'abord, je ne suis pas du tout le seul à parler de féodalisme à propos de la situation contemporaine. On peut penser par exemple au regretté David Graeber, qui parlait de féodalisme managérial. On peut penser à Alain Supiot qui, dans le domaine du juridique, et d'ailleurs d'autres juristes, parle de féodalisme juridique. Bon, il y a une série d'exemples. Habermas parle de reféodalisation de la sphère publique. Donc c'est vraiment un usage contemporain qui existe et qui renvoie finalement à le caractère inachevé, mais également non absolument fini, du capitalisme. Il y a finalement du passé qui existe dans le capitalisme, et ce passé est en partie son futur possible, si vous voulez, c'est cette idée générale. Alors pourquoi le concept de féodalisme m'a semblé opérant? Eh bien parce que par rapport au capitalisme, il souligne deux types de relations qu'on avait tendance à oublier. Le premier type de relation, c'est des relations qui sont des relations d'attachement, de dépendance. Et ça, c'est la première chose. Les serfs sont attachés à la terre seigneuriale. Ils dépendent du seigneur. Et cette relation de dépendance est associée à une forme de domination politique. Donc ça, c'est la première relation qui est typique du féodalisme. La deuxième relation qui est associée au féodalisme, c'est la relation de prédation. C'est-à-dire que la classe des nobles, elle n'investit pas pour produire plus efficacement ou seulement à la marge, elle investit essentiellement pour étendre son domaine. Donc c'est une logique qui est de jeu économique à somme nulle, où finalement, lorsque certains gagnent plus, les autres gagnent moins. Donc si vous voulez, vous avez ces deux éléments, attachement-dépendance d'un côté, et d'autre part, une logique de prédation. En quoi ces deux relations nous parlent d'aujourd'hui ? Elle nous parle de deux façons. La première façon, c'est la dépendance au numérique des acteurs, aussi bien individus que firmes subordonnées. Aujourd'hui, on voit dans tous les domaines, évidemment, les big data associés aux GAFAM, mais c'est aussi vrai dans l'industrie. Si on pense par exemple à des entreprises comme Siemens, qui sont des entreprises industrielles, mais qui concentrent à travers leur contrôle sur les data toute une série d'opérateurs industriels. Ou alors dans le domaine de la grande distribution, le rôle joué par Walmart, qui a des systèmes d'information extrêmement puissants et qui lui permettent de dominer toute une série de ses fournisseurs. Donc on a vraiment ce jeu sur les contrôles des systèmes d'information qui est un moyen de s'attacher des acteurs économiques. Non seulement des clients, des individus, mais également des organisations subordonnées. Donc ça, c'est le premier élément de parallèle. Le deuxième élément de parallèle, c'est que le grand mystère du capitalisme contemporain, c'est un capitalisme qui, du point de vue des profits, se porte extrêmement bien. On a une récupération du niveau des profits dans les pays du Nord depuis une trentaine d'années tout à fait significative, depuis les années 90. Et pour autant, l'investissement ne cesse de décliner, la productivité ralentit, le sous-emploi est endémique. Donc quelque chose qui signale un système qui ne fonctionne pas très bien. Et une des manières de penser ce dysfonctionnement, cette désadéquation, si vous voulez, entre profit et investissement, c'est de dire que finalement, il n'y a pas véritablement d'intérêt à investir. On peut faire autre chose des profits. Et on peut faire quoi d'autre des profits? On peut investir non pas dans davantage de production, mais dans l'extension du domaine du contrôle. Alors, l'extension du domaine de contrôle, ça va être quoi? Ça va être une intervention politique, et j'en parle très peu dans le livre, mais c'est un élément très important. La hausse des dépenses de lobbying, c'est bien changer les règles du jeu pour avoir davantage de profits, ça n'a rien à voir avec une logique d'investissement productif, mais c'est également, à travers le numérique, se constituer des citadelles inexpugnables. Les exemples, quels sont-ils? C'est les droits de propriété, qui sont durcis de manière extrêmement importante au cours de la dernière période, donc les brevets, les copyrights, etc. Mais c'est également des contrôles sur des systèmes d'information. On peut penser par exemple à Apple, le fait que Apple n'a plus aucune usine, et pourtant c'est un opérateur industriel. Il définit très précisément les machines qui vont être utilisées pour chacun des composants de ses ordinateurs ou de ses téléphones. Et il contrôle finalement ça à travers un système d'information extrêmement complexe dans lequel il exerce une forme de droit de péage. Donc là aussi, vous avez une logique où il n'y a pas d'investissement tangible. Il y a des investissements dans les intangibles, dans l'immatériel, dans le logiciel, qui sont des investissements qui peuvent être utilisés à une échelle extrêmement large sans coût additionnel. Tandis que les autres, les subordonnés, doivent faire les investissements matériels qui vont leur permettre de participer à ce système-là. Donc là aussi, il y a une logique de faible investissement par rapport aux profits qui peuvent être réalisés.
Finalement, malgré le détour du féodalisme, plus de questions que de réponses dans votre ouvrage, mais vous l'assumez, vous ne voulez pas nous dire ce qu'il faut faire, quelle régulation inventer. Alors, faut-il sortir de Twitter?
Non, je veux pas fermer le débat. Je pense que ce qui est important, c'est de l'ouvrir, et de l'ouvrir pas seulement du point de vue de la concurrence. Aujourd'hui, le débat central qui est en train de monter, c'est ce qui se discute au niveau de la Commission européenne ces jours-ci, c'est qu'il va falloir démanteler les grandes citadelles numériques et réinstaurer de la concurrence. Et s'il y a un message important dans le livre, c'est de dire non, c'est pas ça la solution. La solution, c'est de réguler ces entreprises, de les socialiser, de les rendre publiques davantage peut-être, mais certainement pas de mettre en place de la concurrence.
Je vous remercie beaucoup Cédric Durand. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Techno-féodalisme, critique de l'économie numérique aux éditions Zone.
Entendez-vous l'écho, une émission préparée par Marguerite Caton, Bruno Barada, Aliette Ovine, Léa Sabourin et Antoine Jourdan. À la réalisation, Anne Depelchin. À la technique aujourd'hui, Alex Dang. Demain, premier épisode de notre série sur les émergents face à la crise. On prendra la direction de l'Asie du Sud-Est. En attendant, vous pouvez écouter l'ensemble de nos émissions sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France. Et nous retrouver sur Twitter, sur le compte d'Entendez-vous l'écho. Oh, I travel.